Bonsoir.
Bonsoir.
Eh oui, bah oui, ça y est, c'est reparti, les gars. Ah, il n'y a plus personne.
Si, on est là. Alors, on est là, mais l'équipe imaginaire est là pour la première émission de...
Notre 10e saison, je crois que c'est l'émission 171, mais bon, je sais, j'ai dû me planter un peu en les comptant. Pas mal, quand même.
Et nous ne sommes pas seuls, puisque nous avons deux invités d'honneur. Boris Bezelin et Tony Amerio. Alors, je ne sais pas s'ils sont très connus sur Angers. Vous en dites quoi, tous les deux?
Non.
On se fait discret.
Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit que je passais mon temps à raconter des conneries à la radio, et c'est la deuxième fois que je l'entends en une semaine. Du coup, nous vous invitons parce que depuis la dernière fois que nous nous sommes parlé à la radio, et la dernière fois que nous nous sommes vus à l'Angers Geek Fest l'année dernière, vous avez sorti un comics, tous les deux.
Ouais, la dernière fois, c'était pour parler. Je crois qu'on était sur le premier jour de campagne, il me semble.
Ouais, c'est ça. Vous étiez venu pour le début du financement participatif.
Et depuis, il s'est écoulé du temps et le bouquin est là.
Il est là. Il est là devant nous.
Beaucoup de temps, apparemment.
Et c'est un tome 1, d'ailleurs. Donc, voilà, on espère que vous serez plus rapide pour les suivants. Bon, on va reparler de tout ça.
On va pouvoir en discuter, oui, bien sûr.
Ouais. Et donc, émission un petit peu spéciale Angers Geek Fest, hein, qui se tient le week-end prochain au Parc des Expos, samedi, dimanche. Voilà, je pense que tout le monde est au courant, il y a des affiches partout et tout. On imaginaire aura un stand le double en taille de celui de l'année dernière. Quand même.
On a quand même pas mal de personnes en plus. Bon, les plus importants restent Boris Bezelin et Tony Amerio. Je dis ça parce qu'ils sont là.
J'espère que les autres n'écoutent pas.
Et parce que je suis payé.
Je n'en ai pas dupe.
Non. Nous allons accueillir Jérôme Nedelec et Estelle Faye pour notamment une table ronde sur l'Antiquité. On va démystifier en fait les...
Toi, tu fais bien la pub pour ta table ronde et tout là. Hein.
À 14h le samedi, venez nombreux. On aura des bonbons.
Bon, il y aura plein de choses intéressantes. On va vous parler aussi de tous nos autres invités et de tous les autres invités de l'Angers Geek Fest. On commence avec un petit peu de musique. Ouais, bon, justement, un groupe qui va jouer samedi, parce qu'il y aura deux concerts ce week-end au Parc Expo, et donc c'est 0G.
Justice, we must bring this taking over. I'll agree there will not be a better chance. Push out.
Alors.
Comment je fais?
Ouais.
Au pire, même, elle peut aller chercher.
On est au téléphone avec une illustratrice.
Lundi,
ouais, c'est ce qu'il semblait.
C'est ce que je lui ai dit.
C'est un vrai saloon ici, quoi.
Non. Papy, c'est pour encore.
Bon, on va commencer par faire. Les gars, vous êtes à l'antenne, hein.
C'est vrai?
On va commencer par faire notre petit. On vient de récupérer la demoiselle.
On est en train d'organiser notre vieux privé.
Passionnant, quoi.
En attendant qu'on arrive à récupérer.
Ouais, alors l'Angers Geek Fest, Pierre-Marie, bon, tu voulais faire la promo pour la table ronde
Alors la question c'est,
que tu animes.
J'ai envie de faire de la promo de la table ronde qui est extrêmement importante, bah, pour moi c'est le truc le plus important, mais il y a aussi deux personnes avec qui discuter. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu, vous étiez là l'année dernière
Moi seulement.
Ah bon, oui, c'était pas là. Ouais. Pour moi t'es inestimable, t'es toujours là.
Oui, bah, mais je sais.
Il est discret.
Une sorte de fantôme.
Donc, quand il n'est pas là.
Tony, oui. Qu'est-ce que tu as pensé de l'Angers Geek Fest? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Bah, c'était bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus Non, j'ai trouvé ça chouette. Alors après, évidemment, moi j'ai fait pas mal de salons, notamment avec Sticky Pants, qui était un peu plus cossu que ça, un peu plus ancien. En termes de... Voilà, c'était pas la première édition, là en l'occurrence c'était la première. En plus, c'était dans une période assez compliquée, hein. Je crois que le préfet... avait un peu chié dans les bottes de l'organisation.
Et il a posé son couvre-feu et annulé tous les événements.
À la dernière minute, et ça avait été assez compliqué de se retourner. Mais malgré tout, en fait, on était sur un succès assez, relatif. Mais du coup, je pense qu'ils ne sont pas spécialement déçus. Donc là, moi, je reviens fait avec plaisir. Parce que c'est des événements qui me plaisent. Qui sont
D'ailleurs, vous allez défendre un peu la partie comics de l'édition parce que
alors ça
cette
par contre
il y a pas grand chose quoi.
Tu vois, c'est ce qui m'avait manqué l'année dernière parce que l'année dernière c'est vrai que l'affiche était un peu mensongère à ce niveau-là, ça mettait l'accent sur le comics et on s'était fait la réflexion, je crois qu'on avait discuté tous les deux, c'était très orienté manga. Mais pas tant que ça, comics, non bah, c'est pas avec toi que j'ai eu cette discussion-là.
En même temps, c'était très orienté, ça devait être avec moi, c'était très orienté Japon.
Ouais.
Parce que c'est la base de l'entreprise Leno qui fait l'Angers Geek Fest. Il faut rappeler que c'est leur 5e salon geek en France.
Okay.
Et donc, eux, leur grande force, c'est le côté, effectivement, Japon.
Oui, ils sont plus là-dessus. Ouais.
Et quand ils arrivent à Angers, bah, ils avaient voulu proposer quelque chose de différent. Littérature et comics.
D'accord.
Donc, parmi les ambassadeurs de comics, il y avait Black Book Edition et vous.
Ouais. Non, c'est du jeu de rôle, le Black Book Edition, Pierre-Marie.
Oui.
Et il y avait un invité anglo-saxon l'année dernière, c'est un anglais qui dessine, je crois, pour la Marvel, mais qui n'a pas pu venir pour DC, qui avait fait l'affiche, là. Une belle affiche qu'on avait repris.
Écoute, ça me dit rien. Enfin, en tout cas,
il y avait Superman et tout. Trop devant la cathédrale d'Angers. Bon,
ouais,
cette année,
vois,
c'est.
Bah, celle de cette année, moi, je la trouve très chouette.
C'est Robin. Simon Delard qui fait l'affiche qui était déjà là l'année dernière, d'ailleurs, j'avais pu papoter avec lui, qui bosse aussi, d'ailleurs, des fois pour Marvel, DC, Disney, tout ça, qui est basé sur Nantes, je crois, ouais. Et on lui a demandé de refaire cette affiche qui est cool. Hein. Je sais pas si vous avez reconnu toutes les sorcières qui sont dessus.
Si.
Parce que cette année, c'est Magie et Sorcellerie. Voilà, t'as reconnu tout le monde.
Il faut le rappeler, c'est que l'année dernière, c'était Super-Héros. Cette année, c'est Magie et Sorcellerie. Et puis, on a une sorte de gentleman agreement avec l'entreprise Leno et l'Angers Geek Fest, où en fait, ils nous ont donné un espace de stand en nous disant « Démerdez-vous avec la littérature, on valide plus ou moins tout. » Alors, c'est soumis à approbation. Ouais. Mais
comme ça, c'est
ce qui explique pourquoi vous êtes présents. On voulait vous avoir avec nous. Et pas que. On avait Estelle Fay, donc que je rappelle Estelle Fay, et puis Jérôme Nedelec, qui sont deux auteurs qui sont spécialisés dans l'Antiquité et le Moyen-Âge. Et ils vont parler de ça, des mythes, puisqu'ils ont tous les deux une formation historique, à peu près. Et donc, nous allons pouvoir parler de ça. Mais nous avons aussi Roxane Dambre, Patrice Véry, Mathieu Sédas, J.B. Cobencroft.
J.R. Cobencroft.
J.R. Cobencroft, oh. Avec les initiales.
Ouais, qui est un peu le. Alors, il s'autoproclame écrivain feel bad et Roxane s'autoproclame écrivain feel good. Donc, je me suis dit, ça va être bien les mettre l'un à côté de l'autre.
Il
va
y
avoir
les
deux extrêmes.
Il va y avoir deux fils. Il va y avoir les dépressifs et puis les optimistes.
Voilà, c'est ça. C'est un peu le Stephen King du 49 quand même, on est content de l'avoir, je trouve qu'il
colle bien dans la
thématique magie et sorcellerie.
Il est fan inconditionnel de Stephen King, donc c'est pas déconnant de le voir sortir.
Mais j'ai lu son premier tome et d'ailleurs on va avoir le deuxième, la suite, La Maison Jaune,
La Maison
ça
Jaune,
je crois,
ouais,
en exclusivité en fait, apparemment le week-end prochain. Et il a une mythologie fantastique. Ouais, c'est un peu de la sorcellerie moderne, bien, bien particulière, bien à lui. C'est vraiment cool. Content de l'avoir.
Alors bon, il y a notre stand, mais il n'y a pas que nous sur la partie littérature.
Ouais, t'as annoncé tout le monde, Patrice Derry, en science-fiction, Ronald, ouais. Tout ça.
J'étais et il n'y a pas que la littérature. Donc en allant à l'Anja Geek Fest, vous allez pouvoir tomber sur tout ce qui est les goodies japonisants, des combats de sabre laser avec l'Anjou Saber Club qui sera présent pour une démonstration, des matchs de Quidditch, des drones, des courses de drones, un petit peu de jeux vidéo, de jeux de société, notamment d'initiation aux jeux de société traditionnels japonais, si jamais vous voulez.
Ouais,
vous
je pense que Soleil Levant, un gros
Soleil Levant sera là. Donc en gros, là-dessus. On attend quand même pas mal de personnes, toujours au Parc des Expos.
Et moi, je comptais aller aussi à la formation d'escrime historique en dégâts. J'ai vu qu'il y avait plusieurs créneaux, je ne savais même pas qu'on avait un club.
N'y va pas.
Ah, mais j'ai fait de l'escrime classique en club pendant de nombreuses années.
Il y a longtemps.
Ouais, t'as fait de la danse. Là, tu vas te battre avec des épées. Pas avec
des épées qui datent, les en dégâts, c'est nos ancêtres gaulois, c'est ça hein,
du, c'est la tribu gauloise qui était sur Angers.
C'est pas du Béorn quand même, c'est des... C'est de l'escrime.
Bon, et puisqu'on est dans nos petits clins de petits coups de cœur de programmation, il y a des conférences. Donc, il y en a une aussi le dimanche. L'étrange histoire vraie derrière Stranger Things par Adam Bros. Ça, rien que le titre. Je savais même pas qu'il y avait une histoire vraie derrière Stranger Things.
Il y a pas
Things.
Mal de youtubeurs qui viennent. Paléosphère revient. Le Cuisto Geek.
Ne vient pas. Ça a été annoncé il y a quelques heures.
Ouais, il a
annulé. Bah voilà, mes infos ont quelques heures de retard.
Bien dommage.
Ouais. Il y a aussi une conf d'Ulysse à Dark Vador à la source du héros dans les cultures de l'imaginaire. Ça me branche bien. Et donc Pierre-Marie, imaginaire et histoire, les mythes de notre de notre passé. Tu peux les présenter un petit peu, Jérôme et Estelle.
Et ben alors, donc Jérôme est un, c'est un mec un peu bizarre. On va voir ça comme ça.
J'espère qu'il nous écoute pas lui non plus.
J'ai peur de dire des conneries et pourtant j'en dis quand même pas mal à la suite. C'est un professeur d'histoire qui fait de la vulgarisation et qui fait des pas des conférences, mais il va sur des lieux historiques et fait des présentations sur la différence entre ce qu'a été l'histoire et ce qu'on en parle. Il faut savoir que toute la partie médiévale féodale a été beaucoup dénigrée, notamment à la Renaissance, puisque pour casser le mode politique qui était la féodalité, la Renaissance a beaucoup écrit et a beaucoup détruit ce qu'il y avait avant. Richelieu n'y est pas pour rien, notamment pour la langue française. Et donc lui, son boulot, c'est vraiment d'arriver en disant, ben voilà ce qu'on vous apprend dans les livres d'histoire, voilà pourquoi c'est faux, même si c'est dans les livres d'histoire. La réalité historique, c'est ça. Donc, c'est vraiment un historien à la base, c'est de la reconstitution historique, la base de son boulot, et il a sorti deux livres sur les apports des Vikings en France, puisque les Vikings, ce ne sont pas les monstres assoiffés de sang qui passaient leur temps à ravager nos côtes, un petit peu quand même,
ouais, quand
mais
même.
Pas que.
Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Vikings, à l'Anja Geek Fest, il y aurait aussi une expo des costumes de la série Viking.
Oui.
Et même des éléments de décor, je ne sais pas, les storyboards. Et
l'année
tout,
dernière, il y avait
la chaumière du bout des rêves.
La chaumière du bout des rêves qui arrivait avec les costumes de Black Sails, la série sur les pirates où ils avaient récupéré des costumes de la série, notamment des je ne sais plus leur nom, les soldats anglais. Leur costume rouge avec tricorne qu'on voit notamment dans Pirates des Caraïbes, c'est un nom particulier, ces personnes-là, je ne me souviens plus. Et donc, ils avaient récupéré des costumes de la série qui étaient présentés.
Les soldats anglais. Oui, les soldats anglais, la Marine Royale.
Alors voilà, la Marine Royale. Mais ça, il y avait un nom, c'est un peu comme les Minute Maid. Les Minute Men.
Pour le pot de jus d'orange,
ouais. Ouais, c'est presque pareil. Donc, ils viennent avec des costumes de la série. Et à côté de ça, en face de Jérôme Nedelec, je vais vous présenter Estelle Fay, que vous avez déjà vu à Angers, puisqu'elle est venue pour un salon imaginaire. C'est une autrice, pour le coup, c'est une autrice et une scénariste de théâtre qui a basé beaucoup de son travail sur le Moyen-Âge et l'Antiquité. Elle est spécialisée dans l'Antiquité et elle en a fait de l'Antiquité. On a le médiéval fantastique, elle fait de l'Antiquité fantastique et elle vient déconstruire aussi le mythe antique et rappeler un petit peu ce que c'était vraiment la manière dont les gens vivaient en Antiquité. On va beaucoup parler de Grèce, mais aussi de Gaulois, puisque nos ancêtres les Gaulois, c'est le pire mensonge historique que nous puissions avoir.
Mmh. Eh ben, attends, on s'écoute un petit morceau, et puis on passe à l'interview de Tony et Bruce, hein, à propos de Paria.
Non, je prends en vieux leur interview.
Votre premier choix musical.
calme-toi.
Gorillaz. Ah bon, on tourne un petit peu en Merlin.
Madam, the ship is under attack from pirates. I've been sent to escort you to the lifeboats. Madam. Oh. I. Oh dear.
just looking out on the day of another dream, where you can't get what you want, but you can get me. So let's head out and see, 'cause you are my medicine.
Aïe, 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 aïe. On voulait vous faire gagner des places pour l'Angers Geek Fest, mais le téléphone ne marche pas. C'est embêtant. Donc, ben, on les fera gagner sur notre page Facebook à partir de demain. Hein. Voilà, il y avait deux places pour une journée. Hein. C'est ça, ouais. Pourquoi les Gorillaz ? C'est un rapport avec l'illustration ?
Non, non. Bah, Gorillaz, déjà, moi, j'écoute beaucoup, énormément. Donc, forcément, il y a eu un moment donné où, dans l'écriture de Paria, je l'ai écouté. Parce que c'est un truc dont je ne me lasse pas. Et puis, c'est un projet global, Gorillaz. C'est-à-dire qu'il y a Jamie Hewlett, en l'occurrence, voilà. Benjamin Arban, que tout le monde connaît. Jamie Hewlett, que les gens connaissent un petit peu moins, mais qui était le dessinateur de Tank Girl, à l'origine, et qui a arrêté la bande dessinée pour se consacrer à la création de ce groupe, de manière collégiale et complète. J'aime beaucoup pour ça. Les visuels, l'univers, tout me plaît. Je trouve que... c'est toujours inattendu et systématiquement plaisant. Enfin, pas systématiquement, il y a des trucs qui là, dans les derniers, me plaisent un peu moins. Mais voilà, j'aime beaucoup Gorillaz.
Boris, c'est une influence, Jamie Hewlett
Jamie Hewlett, pas exactement. J'aime beaucoup ce que fait Jamie Hewlett, enfin, ce qu'il faisait en tout cas quand il faisait Tank Girl, quand il faisait de la BD. Hooligans, Haircut et tout ça. Mm-hmm. Mais... non, je ne peux pas dire que ce soit une influence claire, claire et nette, ou directe, voire même indirecte.
Ok. Bon. Et donc, alors, c'est toi qui as tout dessiné, pas rien.
Non.
Ah bon.
Non.
J'ai reparti.
Moi, j'ai dessiné la couverture.
Ouais.
Voilà, une partie du récit, et il y a 5 pages à la fin du récit qui ont été dessinées par Lionel Marty.
Oui, oui, là, j'avais bien vu.
J'ai tout dessiné.
Oui, oui, oui.
Et un strip et une illustration réalisée par Dominique Hennebeau aussi,
et
qu'on oublie
trop
souvent.
À l'intérieur, il y a aussi, comme le dit Tony, un strip et une illustration de Dominique.
Donc, on est sur un projet collégial comme Gorillaz.
Il est crédité, d'ailleurs. Je me suis demandé qui avait dessiné ce...
Lionel est, est crédité, Dominique, il est crédité indirectement, parce que du coup, j'en ai fait un personnage dans l'histoire. C'est Dominique Hennebeau, en fait, si tu regardes les unes de journaux, c'est un personnage à part entière de l'histoire.
Ah ouais, alors là, j'avais pas du
dessinateur.
Tout capté.
Le s'appelle dessinateur, Dominique Hennebeau, en fait. Et le dessinateur de presse d'Amparia s'appelle Dominique Hennebeau.
On est dans une mise en abyme.
Donc il est à la fois dessinateur et personnage de BD.
J'avais pas fait attention. Ah oui, d'accord, et si, effectivement, il est là. Et oui, parce que c'est pas simplement une bande dessinée, enfin, je veux dire, il y a pas mal de choses en plus quand même dans Paria. Il y a des articles de journaux.
On essaye. Enfin, moi, en tout cas, on en avait discuté avec Boris et c'était toujours un projet, un matériau un peu vivant. On a la trame principale, évidemment. Mais après, on s'amuse. Et moi, j'avais envie de raconter des choses de manière un peu différente. Manière un peu différente, j'ai pas inventé l'eau tiède, hein, parce que du coup, Alan Moore l'a fait dans les Watchmen, en l'occurrence, bien avant moi. Mais du coup, d'avoir des angles différents et de mettre des coupures de journaux qui apportaient un éclairage autre que ce à quoi on avait participé en tant que lecteur en lisant les premières planches. Revenir là-dessus avec un éclairage différent. Et puis, on verra que par la suite, ces coupures de journaux ont une importance dans le récit.
D'accord.
Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose de gratuit pour l'instant. Y a tout a un peu de sens.
Et à la fin, tu as même des plans, là.
Ouais. Ça, c'était un caprice de ma part.
Des véhicules, en fait. Des machines.
Ouais, ouais, c'était une période où j'avais un peu de temps devant moi. Et du coup, je me suis amusé à faire des plans. Enfin, je trouve que ça fait très steampunk, ce genre de truc que moi, gamin, j'adorais voir. Tu vois, je regardais ça pendant des plombes. Ouais. Du coup, je me suis dit, je dois pas être le seul à être comme ça. Donc, j'ai fait des plans. Et puis, je trouve que ça apporte aussi, encore une fois, un peu d'épaisseur. Parce qu'on est sur un grand méchant qui est un mania industriel, en fait, un café fortune en créant des véhicules pour la police et autres, et je trouvais ça intéressant de montrer ces plans-là. Et de les coder pour en faire un parano complet, parce que du coup, c'est proprement illisible pour ceux qui n'ont pas les clés du code.
Mais alors là, tu parles de choses qui vont avoir de l'importance par ailleurs. Il est de bon ton de rappeler que Paria n'est que le numéro 1 de la série.
Ouais.
Est-ce que vous avez déjà un nombre de tomes défini?
4. 4, et 4, c'est terminé, ça c'est sûr. En fait, on est sur 4 tomes.
Ok.
C'est un... Je suis emmerdé parce que j'ai triptyque quadripède. C'est un quadripède, tout à fait. C'est un quadriptyque, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Mais voilà, c'est un feuilleton en fait qui va se clôturer en 4 tomes.
En combien d'années?
On va essayer d'aller plus vite que pour le premier. Ça c'est toujours la question un peu...
c'est ça, à peu près.
4 tomes, 4 ans. Mm-hmm. Mais non, il y a un peu plus d'attente sur le deuxième que sur le premier, qui arrivait un peu de nulle part. Donc on était tous les deux d'accord avec Boris pour dire qu'on allait essayer d'aller plus vite. D'ailleurs, en fait, c'était une volonté de commencer déjà. Alors, en l'occurrence, il est en chantier pour un moment de la campagne qui doit démarrer le 19 octobre, qui est déjà des planches et que, par définition, l'attente soit moins longue. Et puis, on va essayer, moi, dans un premier temps, en termes d'écriture, de m'organiser un peu mieux que sur le premier pour que voilà, ça puisse couler plus facilement.
Avant de parler de l'histoire, je crois qu'il est bon ton de rappeler d'abord qu'il y avait eu un crowdfunding pour l'avoir, celui-ci, et qu'il est épuisé.
Alors, l'album est épuisé actuellement chez le distributeur. C'est-à-dire qu'il n'y en a plus en stock. Tous les albums sont dans le circuit, donc chez les libraires, partout. Donc oui, pour le moment, le premier tirage est effectivement épuisé. Donc ça a fait l'objet d'un second tirage.
Succès critique en plus de ce que j'ai vu, pas mal de personnes en ont parlé.
Ouais. Une bonne réception en tout cas de la part de la sphère des libraires comics, des critiques de comics.
Et des youtubeurs.
Quelques youtubeurs. Il y avait des personnes qui s'intéressent vraiment de près à cette culture-là. Donc c'est totalement inattendu et toujours bienvenu évidemment.
Donc voilà, avant de parler de l'histoire, on peut rappeler que c'est un comics français angevin et hyper qualitatif. Parce que excellente réception. Et l'histoire alors?
Bon, Angevin, ça se passe à Paris quand même.
Oui,
alors, mais Paris autres... dans une uchronie d'ailleurs un peu.
Oui, complètement.
Oui.
Alors pourquoi l'uchronie?
Bon, parce que c'est toujours sympa de faire une uchronie. Non, c'est toujours marrant de se dire à un moment donné, par rapport à l'histoire qu'on connaît, il y a un truc qui a biaisé. C'est un peu le what if de Marvel qu'on voit en ce moment sur Disney+. Il y a juste un petit élément qui fait que ça déraille, ça crée une nouvelle ligne temporelle et on se retrouve dans un nouvel univers. Et pourtant, ça évoque plein de choses qu'on connaît et on a le droit de proposer des choses différentes. C'est pas déconnant et moi, j'ai toujours trouvé ça hyper, hyper intéressant comme univers. Donc ça faisait longtemps que j'avais envie de proposer ça.
D'ailleurs, il y a une pub là, le fléau est dans nos rues, afin de protéger, vous protéger ainsi que vos proches face à lui, une seule solution, le vaccin.
Ça a été fait avant le... Non mais vraiment, hein, je te jure, ça a été fait parce que tu peux en attester clairement. Enfin, ce truc-là a été écrit tout. Alors, je dis pas qu'il y a eu des micro-aménagements, ça c'est vrai par rapport à ce qu'on a pu connaître, crise sanitaire et toutes les merdes qui en sont suivies. Mais l'histoire de la lèpre bleue, des flics qui balancent des gaz sur les manifestants, des émeutes de rue, etc. Tout ça c'était en place avant. Le confinement également, au même titre que la vaccination, clairement. Et ce visuel-là, je l'avais en tête depuis très longtemps, quoi. Okay. Il est sorti bien avant, en fait, qu'il y ait toute cette vague qu'on a tous les samedis de manifestations anti-pass, etc. C'était un truc à croire que... Voilà. Il y a des petits prémices qui laissaient présager que ça pouvait nous tomber sur la couenne, et effectivement, c'est ce qui est arrivé.
T'as une grosse partie au début, d'ailleurs, enfin, rappel historique, en fait, avant de rentrer dans l'histoire des personnages.
Bah, c'était important, en fait, parce que du coup, il y a un contexte qui explique une espèce de grogne générale. Tu vois, on est vraiment sur une espèce de commune qui aurait duré 2 mois et qui se serait finie dans un espèce de bain de sang. En fait, on est une guerre civile qui est vraiment localisée sur Paris, avec des attentats, avec des groupuscules, avec des forces de l'ordre qui réagissent par la force de manière complètement désordonnée, et puis finalement sans vraiment prendre conscience de ce qu'ils font, parce que finalement ce gaz majorel, qui est un gaz bleu en fait, hein, du nom du peintre, le bleu majorel. Là, pour le coup, on est sur un peintre qui a véritablement existé, provoque ensuite une maladie qu'on appelle la lèpre bleue, qui décime les populations et puis qui se transmet un peu comme la Covid, quoi, qu'on connaît en ce moment.
Mais c'est un peu le background quand même de l'histoire.
Ouais, c'est vraiment c'est le démarrage. En tout cas, c'est le terreau de l'histoire au moment où elle démarre, en tout cas.
Voilà, ça n'a pas trop d'influence sur les aventures des 5 personnages principaux.
Enfin, non, c'est du hors-champ, mais ouais. C'est du hors-champ qui a quand même une importance extrême.
Ouais.
Hein. Bah, de toute façon, comme tu le disais, Tony, on verra par la suite quelle importance ça a, effectivement. Ouais. Tout ça.
Ouais. Donc, 5 personnages principaux, donc les parias, qui sont enlevés et kidnappés chacun de leur côté par donc un industriel richissime, qui pour le moment, c'est juste qu'il décide d'en faire un peu sa force de frappe, quoi.
C'est ça, tu...
Oui, je pensais que tu...
Ah non, mais j'ai pas mal parlé, déjà.
Oui. non, mais c'est quand même toi qui écris l'histoire.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Oui, je souscris à tout ça, effectivement, oui.
Non, mais on va pas trop...
Non, mais c'est toujours intéressant, déjà, d'écrire des méchants. Et puis, moi, j'aime bien les méchants qui n'ont pas besoin de se justifier, finalement.
Oui, oui,
des salopards finis. Ils n'ont pas... Ils ont toujours besoin de trouver une raison à mettre le monde à feu et à sang. Les psychos, les vrais psychos, ils n'ont pas besoin de se justifier, en fait. C'est juste une pulsion. Et le gars, là, il a la thune, il a le pouvoir. Il se dit, qu'est-ce qui me manque dans ma vie que j'ai toujours voulu avoir, en fait. C'est à la limite des super-héros. Enfin, on n'appelle pas ça comme ça dans ce monde-là, mais c'est des gens avec des aptitudes extraordinaires qui sont capables, potentiellement, de mener des actions en loose day, tu vois. Parce que moi, je ne peux pas, en fait, en tant qu'industriel. J'ai pignon sur rue. Je suis quelqu'un d'assez estimable. Enfin, en tout cas... en tout cas, c'est l'image que je donne. Voilà. Et eux, voilà, je peux me payer des jouets, en fait, tout simplement, et je m'en prive pas.
Alors, par contre, moi, j'ai une déception avec ce bouquin-là, c'est que les super-héros sans lycra, j'ai beaucoup de mal, quand même.
Mais je pouvais pas.
Et justement, ce ne sont pas des super-héros, des parias. Ce sont des personnes qui ont des tares, en fait.
Exactement, ouais. Bah, en fait, chaque pouvoir, entre guillemets, on appelle ça plutôt des aptitudes, parce que pouvoir, j'ai du mal, en fait, c'est vraiment du langage comics, et là, on joue avec les codes du comics, mais ça n'en est pas. Et Boris a raison, en fait, il dit que ce sont des tares, c'est des frics, hein, ni plus ni moins, c'est-à-dire que pour chaque don, entre guillemets, t'as le revers de la médaille, Karamoko, en l'occurrence, je crois que c'est le pire de tous. On ne connaît pas encore véritablement ses aptitudes. On va les apprendre très certainement dans le tome 2. Mais il y a un cadeau, un don, et puis du coup une contrepartie foireuse en regard de ce truc-là.
On va parler un petit peu du visuel. C'est un choix plutôt Bichrome quasiment.
Inattendu, c'est ça que tu voulais dire,
non? Je sais pas.
Non, mais il y a un petit côté Neil Gaiman dans l'approche du...
Ah, c'est marrant. Ça,
très, très... Oui, bichrome, comme tu dis, noir et blanc avec quelques touches de couleur.
Ouais.
Alors, c'est pas une vraie bichromie, hein. Ça reste de la quadrille. Ouais. Mais effectivement, il y a une utilisation très limitée, une palette de couleurs très limitée à base d'un rouge et d'un bleu. Puis viennent là-dessus différentes trames qui créent des grilles optiques, ce qui permet de, quand même d'avoir une échelle de valeur importante, mais uniquement avec deux tons. Donc c'est de la fausse bichromie. Mais alors d'où ça vient ça? Ça vient de plusieurs essais, ça vient d'une réflexion qui a été assez longue à se mettre en place. Au début, naturellement, on s'est dit, on va le faire en couleur, hein, comme tous les bouquins qui sortent.
Il y a une planche qui est en couleur d'ailleurs à la fin.
Oui, à la fin, il y a d'ailleurs une page d'essai que j'avais fait en couleur, en quadrille. Voilà. Et puis au fur et à mesure que je dessinais, je me disais que voilà, ce serait quand même bien de donner quand même un aspect particulier à ce livre, notamment par le biais de la couleur, du graphisme. Donc est venue dans un premier temps l'idée de mettre des trames. Et dans un deuxième temps, presque en même temps, l'idée de faire référence aux premières mises en couleur des magazines, enfin des journaux du début de siècle qui utilisaient donc ce principe du rouge et du bleu pour mettre un peu de couleur. On voit ça alors dans les vieux Tintin, dans les vieux Quick et Fluke, dans les vieux tout ça. Et donc c'est même dans les Spirou, dans les premiers Spirou, hein, une page en couleur, une page en bicro. Et du coup, ça donnait un côté à la fois vieillot, ce qui nous permettait d'imprimer encore plus le fait que voilà, ça se passait au début de siècle, enfin un peu avant même, dans une époque très lointaine, et en même temps l'enjeu par la trame mécanique, qui est donc là plus une référence au manga, de donner un côté moderne, c'est-à-dire d'allier ces deux-là. On dessine quelque chose, on crée quelque chose qui se passe il y a très longtemps, mais en même temps on veut faire quelque chose de plastiquement, esthétiquement moderne. Voilà.
Et alors la trame, par contre, ça c'est géré par ordinateur.
Ouais. Oui. La trame, elle est faite par ordinateur. En fait, le principe, moi je travaille dans un logiciel qui s'appelle Clip Studio Paint. Donc tous mes noirs sont dessinés sur papier, scannés.
D'accord.
Et la couleur, en fait, c'est assez simple. C'est donc un rouge et un bleu, donc en aplat, que je trame, et après, par différentes densités de trame que je peux appliquer grâce au logiciel, c'est très facile à régler, des curseurs à bouger, du coup, ça me permet de créer des valeurs de gris, en fait.
Voilà.
Ouais. Et le blanc reste apparent, le blanc du papier est très, très présent aussi, également.
Ouais.
Donc du coup, c'est pareil, ça me permet de flasher. Ça, alors ça, tout ça, ça a une... évidemment, il y a un enjeu esthétique clair, marqué. Il y a aussi un enjeu, il ne faut pas se le cacher, il y a un enjeu de temps. Alors même si le premier nous a pris beaucoup de temps pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer, ce principe-là de mise en couleur, c'est très rapide à faire en fait. Et du coup, parce qu'il y a juste deux couleurs à mettre, et après à s'amuser vraiment avec les curseurs, donc du coup... Ça permet aussi d'aller vite et de travailler dans l'esprit de création d'un comic. C'est-à-dire, on fait les choses vite, bien, mais vite, parce qu'il faut aller vite, il faut raconter vite.
Okay.
Donc,
vous êtes avancé comment, d'ailleurs, là, sur les quatre tomes?
Les quatre tomes, ils sont écrits, en fait. La colonne vertébrale du récit, elle est là, elle est présente. Après, maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est un espèce de matériau vivant, par ailleurs. Donc, ça passe par pas mal de discussions avec Boris, et à chaque fois, on se dit, tiens, on a cette idée-là. C'est ça qui est bien aussi de fonctionner avec Comics Initiative, de passer par le financement participatif. C'est que c'est pas figé, c'est pas, dès le départ, on n'a pas notre grille, comme avec un éditeur classique, c'est souvent ce que tu dis, et c'est vrai. C'est que voilà, tu travailles avec une maison d'édition classique, dès le départ, les lignes sont définies, et t'en bouges pas, finalement. t'as ta date de rendu, et puis tu restes sur quelque chose d'assez classique, ta pagination, ton format, ce genre de choses. Là, avec Paria, ça n'a pas arrêté de bouger, en fait. On a eu le droit d'avoir des réflexions, de faire des retours en arrière, d'améliorer des choses. Les coupures de journaux sont... Alors, j'avais ça en tête depuis le départ, mais du coup, le fait d'en mettre plusieurs, ça n'a pas forcément été immédiat. C'est venu en cours de route. Donc, c'est vivant, donc ça permet plein de choses. Donc, alors, pour répondre à ta question, parce que j'ai fait une digression, les 4 tomes sont écrits, et puis après, il y a plein de choses qui viennent se greffer dessus. Moi, j'aimerais bien, alors après, c'est mon ambition, de faire un univers assez complexe. Du coup, ça peut, hein, clairement, avec les bases qu'on a posées, et puis ce qui va ensuite arriver dans le récit. Il y a moyen d'enrichir et de trouver des manières de raconter ça différemment avec... On a le tronc principal, et puis il y a des petites branches qui viennent à droite et à gauche, en fait, garnir tout ça pour faire un bel arbre.
Une dernière question à propos de l'histoire. Donc à la fin, on a 5-6 pages donc, dessinées par Lionel Marty, mais qui racontent presque, je ne sais pas si c'est la fin de l'histoire, mais on dirait que c'est la fin de l'humanité.
C'est la fin de l'humanité, ouais, clairement. Ouais. Enfin, ça, dans ce monde-là, en tout cas, parce que là, ça se passe en 1916, et nous, on est en 2021, on est toujours là. Mais oui, en fait, effectivement, ce qu'on voulait, avec, c'était marquer le coup et de faire un espèce de saut. Après, il ne faut
complètement,
pas trop spoiler pour les gens qui vont lire, bien évidemment. Mais du coup, en fait, on lâche les parias dans une bien mauvaise posture. Et puis, on les revoit un peu plus tard, comme tu l'as dit, à la fin de l'humanité. Et entre les deux, il s'est écoulé à peu près 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'on était sur une équipe qui était en train de naître. On sentait qu'il y avait potentiellement des affinités qui pouvaient se mettre en place, rapport au fait qu'on les oblige à travailler ensemble. Et puis, 20 ans plus tard, ils sont en train de se mettre sur la tronche, au point de faire disparaître toute vie sur Terre. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer entre les deux ? On ne sait pas. Enfin, on ne sait pas.
Okay.
On espère savoir.
Donc, il faudra qu'on attende les prochains tomes, et peut-être les prochains tomes. Ouais.
Ben oui.
Allez, on s'écoute votre deuxième choix musical et puis on va parler un petit peu de vos autres projets aussi, Tony et Boris, sur le 5.5. Ah non, c'est pas ça. C'est pas du tout un choix musical. Et il est là.
Nos caninos tournants, le souterrain pousse les murs, mainstream, nous gagnerons tous le courant, puis nous disparaîtrons dedans, mainstream, l'art est un rêve. Tous les matins on se lève, le courant passe à côté, mainstream, nous gagnerons tous le courant, puis nous disparaîtrons dedans. Mainstream, à la hussarde de l'industrie, entre nos rêves, fais le tri, maquille les ongles et les échards. Parcours les tuyaux, le monde est une silhouette qui fait le show. Le monde est une silhouette diluée dans les. les tuyaux. Nous gagnerons tous le courant. Puis nous disparaîtrons dedans. Nous gagnerons tous le courant. Puis nous disparaîtrons dedans. Main Street. Main Street. Main Street. Main Street. Main Street.
Dominica dans l'imaginaire sur le 101.5, c'était le choix de Boris.
Et quel choix ?
Et quel, hein ?
Ouais,
hein.
Pourquoi ?
Alors pourquoi ?
Pourquoi choix là ? Alors le titre du morceau, c'est Mainstream. Je sais pas si vous avez écouté un petit peu les paroles. Ça parle de la création et du fait de vouloir être reconnu. De cette ambivalence entre le fait de se dire voilà, je fais quelque chose d'underground, mais en même temps j'existe que pour moi ou que pour très peu de personnes, et en même temps j'aimerais quand même bien que être plus écouté, avoir une plus grosse audience, et que de toute façon au bout d'un moment tout le monde prendra le flux et tout le monde voilà.
Alors les garçons, vous avez sorti plein de, surtout Tony, hein. Plein de BD cette
Boris.
Année.
Ouais. Trois cette année, quand même.
Ouais.
Ouais. Et alors, commençons par Boris. Peter Dillon, c'est ça ?
Ouais, Peter Dillon, c'est sorti au mois de mars chez Glénat, dans le label Très Étrange, chez Glénat. Donc, de quoi ça parle, Peter ? C'était un navigateur anglais qui a vécu au début du 19e siècle.
Voilà, le costume qu'on cherchait tout à l'heure, la Pierre-Marie.
Ah ouais, mais non, lui c'était la marine marchande. Il travaillait pour la Compagnie des Indes orientales. Et un jour, donc en faisant un convoyage, il tombe sur la garde d'une épée en faisant de l'eau dans une île près des Fidji, entre Fidji et les îles Salomon. Et du coup, il se dit qu'il est peut-être sur la trace de l'expédition de la Pérouse portée disparue depuis 40 ans. Donc il se met à faire une enquête pour savoir d'où viennent cette garde d'épée avec le sceau du roi de France dessus. Puis finalement, on vient à se dire que peut-être les bateaux ont sombré près d'une île qui s'appelle Vanikoro. Donc il monte une expédition de secours au début, pense-t-il, parce qu'il potentiellement il pourrait y avoir des survivants encore 40 ans après, pour aller voir voilà ce qui s'est passé, pour mener une enquête sur le potentiel naufrage des bateaux de la Pérouse.
Okay.
Donc c'est une histoire vraie, c'est une histoire qui a réellement eu lieu, et c'est inspiré de plusieurs documents que j'ai croisés, donc le journal de bord de Peter Dillon bien sûr, celui de la Pérouse, celui de Barthélemy de Lesseps, le seul survivant de l'expédition qui avait été débarqué quelques semaines avant que les bateaux reprennent le chemin du retour puis disparaissent, et puis d'autres documents, donc voilà.
Okay.
Donc ça raconte l'histoire de ce marin anglais, donc le premier à avoir découvert effectivement l'île sur laquelle les bateaux de la Pérouse ont sombré.
Et autre bande dessinée qui est sortie assez récemment, qui sera plus dans le thème de l'Angers, oui. Geekfest, Récré à 3.
Voilà, alors Récré à 3, c'est une BD de gags, hein, des gags à la page, et qui croise trois univers qu'on a bien connus étant gamin, celui de Goldorak, d'Albator et de Candy. Donc tout ça dans le même univers.
Ouais.
Voilà, et donc c'est une parodie, bien sûr, de ces
des
dessins animés-là, de ces personnages-là. Et donc voilà, une pochade pour rigoler sur nos...
Que vous avez fait à trois aussi.
Oui, qu'on a fait à trois, en effet, oui. Oui. Avec Sylvain...
Il y a des animaux qui rentrent
dans le studio,
mais c'est pas grave.
Et sa compagne Sandrine Cordurier aux couleurs.
Ok, donc ouais. Tu auras tout ça à dédicacer donc, le week-end prochain à l'Angers Geek Fest.
Ouais.
Et Tony, nouveauté, Samy Parade. Hein.
Ouais, le dernier en date, Samy Parade, alors qu'il est sorti en même temps que le La Super, mais Samy Parade avec... Oui, pardon, j'étais tranquille, posé assez loin du micro. Samy Parade, dessiné par Dominique Henbeau, qu'on retrouve en fait dans Paria, qui est mon comparse déjà sur... on a déjà fait un album ensemble, qui était un western qu'on avait chroniqué ici, dans Drunken George, en l'occurrence, et avec qui on va faire un album chez Dargo en 2022. Oui, c'est ça, 2022, parce que là on est en 2021. Donc Samy Parade, c'est l'histoire d'un petit démon qui est envoyé sur Terre par son père, parce qu'il a 8 ans, il a une grande gueule en fait, hein, c'est un gamin qui veut donner des leçons aux adultes, et en l'occurrence au démon majeur, et au cours d'une réunion où son père demande pourquoi finalement le camp diabolique n'a pas plus d'avance que ça sur les anges, pour corrompre l'humanité, puis finalement mener le monde à sa perte. Le gamin arrive, il l'ouvre, son père veut lui donner une leçon, donc il l'a envoyé sur Terre pour corrompre la jeunesse, en tout cas corrompre les humains, et il va voir sa grand-mère à l'EHPAD des grands anciens, et elle lui dit que le meilleur moyen de corrompre les humains, surtout les jeunes, c'est par le biais de la bande dessinée. Donc il va aller sur Terre, dans une école catholique, pour faire un fanzine qui va s'appeler Samy Parade. Donc là, pareil, on est dans une mise en abîme, en fait, un petit fascicule qui doit être lu par des millions de jeunes et qui a vocation à corrompre la jeunesse pour les emmener dans le camp du mal.
Tu as des choses à régler avec ta jeunesse
sur l'école catholique, oui, j'y suis allé. Après, voilà, il y a des travers partout, mais c'est vrai que du coup, non, c'était plus une pochade, encore une fois, ça me faisait marrer de...
Il y avait l'institution de Binet.
Dégratigner un petit peu. Hein,
je dis, il y avait l'institution de Binet, bande dessinée.
Oui, c'est ça, ouais, tout à fait.
Glaciale, je crois que c'est...
Mais là, voilà, génial, c'était là, pas de compte à rendre particulièrement, c'était juste en fait des blagues potaches, histoire de se marrer un bon coup.
Fais confiance.
Oui, bah ça oui.
Donc pour tout public ou
pas Samy Parade. Alors c'est un peu trompeur parce que la couverture peut passer pour un album tout public et à l'intérieur, non, clairement pas. Voilà, j'ai eu un petit garçon de 8 ans qui est arrivé l'autre jour en dédicace avec. faut que le libraire soit au courant, donc je pense que j'irai voir justement
la mise en abîme marche jusqu'au bout. On est pas là.
Il y a un peu de ça. Donc ouais, non, c'est plutôt ado adulte et ado assez confirmé quand même.
Okay.
En tout cas, capable d'avoir du second degré.
Bon, t'as fait des choses pour la jeunesse par contre.
Oui, oui, bah oui, c'est même ce que je fais le plus finalement. C'est pas forcément ce qu'on retient le plus, mais c'est ce que je fais le plus. J'ai sorti en solo Papy Génial pour des primo lecteurs. À partir de 5 ans, donc c'est avant la lecture hein, pour les tout-petits, donc c'est des aventures, la petite poilue, pour ceux qui connaissent pas, c'est des aventures maîtres, c'est de la bande dessinée qui se passe de dialogue. On se donne l'occasion d'avoir des bulles avec des petits pictogrammes à l'intérieur pour que ce soit facilement explicable. Voilà, papy génial, en fait, c'est un papy qui est génial parce qu'il bricole, et il bricole une bulle qui va partout, il emmène ses petits-enfants à chaque fois avec cette bulle qui va partout, donc il y a un ordinateur. On met un bouquin, une photo, n'importe quoi, et le lieu, les personnages qui sont représentés sur cette photo, sur cette couverture de bouquin, on y va directement. Donc là, sur le premier, le petit garçon, il est dans un mood, j'adore les bandes dessinées du gros robot de l'espace, pas gentil du tout, et il se retrouve sur la planète du gros robot de l'espace, pas gentil du tout. Donc c'est alléchant sur le papier, sauf qu'une fois là-bas, il s'avère qu'il est effectivement pas gentil du tout et qu'il en veut à son plus grand fan. Donc ça pose des problèmes. Voilà, c'est des petites historiettes gentilles pour cet âge-là, avec une petite morale à la fin, mais pas trop quand même. Donc voilà. Et le tome 2 est en chantier actuellement.
Ok.
Et Lola presque super aussi. Pardon, je t'ai coupé. Lola presque super avec Pauline Casters, qui est une
Joachim, le petit angevin.
Voilà, exactement, qui est une autrice angevine. Où du coup, on traite, des gags une planche aussi, de la différence. Et puis, alors avec un gros ton de légèreté quand même, le harcèlement scolaire, qui est un sujet qui est un peu récurrent, un peu emmerdant quand même.
Et puis d'actualité.
Malheureusement, ouais. Lola Super aux éditions Kenes, quoi. C'est une petite fille qui, voilà, les parents sont divorcés, elle intègre une nouvelle école, et puis elle est assez fantasque en fait, elle s'invente des pouvoirs quasiment au quotidien. Donc elle embellit son quotidien comme ça, c'est-à-dire qu'elle est devant un toaster, elle voit les tartines sauter, elle est persuadée de pouvoir ordonner aux objets. Alors que finalement, c'est juste le toaster qui a fini de griller les pains, quoi, tout simplement, mais elle le vit comme ça. Et forcément, c'est un peu mal vu par ses nouveaux camarades de classe. Il y en a qui l'acceptent comme tel, fort heureusement, mais il y en a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi elle est comme ça. Et ça raconte cette histoire-là, tout simplement.
Ok. Et puis les nouveaux tomes de Rulio Biscotto.
Ouais, alors la bande à Rulio, oui, c'est du coup le premier, c'est avec une nouvelle couverture, mais c'est une histoire qu'on connaît déjà, parce que c'était le premier Rulio Biscotto. Le deuxième, par contre, qui devait être prévu pour être le quatrième dans la première chronologie, s'avère être un inédit. C'est un peu compliqué,
mais
c'est juste que le deuxième, vous êtes sûr de jamais l'avoir lu, tout simplement. Et ça se passe dans une pyramide au cœur de la jungle mexicaine. Une pyramide du Chupacabra. Chupacabra, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une légende locale. Mm. Une espèce de grosse chauve-souris qui est censée décimer les troupeaux. Enfin, en tout cas, c'est l'explication qu'ont trouvé
dans X-Files.
Les bergers locaux. Oui, en l'occurrence, X-Files fait référence justement au Chupacabra.
Dessus, ouais.
Donc voilà, moi j'en ai fait un monstre enfermé dans une pyramide. Donc on est sur des aventures à la Indiana Jones. Enfin, ça évoque les Goonies, ça évoque plein de trucs comme ça. C'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps avec Rulio. Enfin, depuis longtemps. Mm. Les trois premiers tomes, j'étais sur autre chose. Là, pour le coup, ça me tenait à cœur et je suis assez content de cet album-là. Enfin, en tout cas, il est chouette. Il y a de bons retours pour l'instant.
Ok. Bon, on vous retrouve donc en dédicace samedi et dimanche au Parc Expo.
Avec plaisir.
Pour tout ça. Et c'est l'heure de la chronique de Sébastien dans Imaginaire sur le 100.5.
Écoute, tu sens le pot.
Et ton générique.
Oui, alors coucou, en fait c'est la première et puis comme toute première il peut y avoir quelques couacs.
Ouais, rapproche-toi de ton micro déjà.
Je vais avoir l'illustratrice d'un album dont je voulais vous parler, Le Japon sans mystère, sauf qu'on n'a pas pu l'avoir en duplex, donc ce qu'on va faire, on va présenter la chose la prochaine fois. Donc pour vous dire que je reviendrai fréquemment dans cette saison, donc la 10e d'Imaginaire quand même, anniversaire. Sur tout ce qui a trait à l'Orient, comme notre anthologie cette année,
ouais, c'est l'Orient extrême, qu'on pourra aussi trouver le week-end prochain à l'AGF. Ouais.
Donc ça me permettra justement de parler de livres interactifs ayant trait à l'Asie. J'aurai aussi le plaisir d'avoir en interview Alain Tépuis-Ségur, l'auteur du Japon sans mystère. Maud Chalmel en est l'illustratrice. J'espère aussi avoir Pierre Rosenthal, que doit connaître Pierre-Marie. Et dont Jean-Hugues.
Monsieur du jeu de rôle, ouais.
Et donc, au cours de cette année aussi, je reviendrai au mois d'octobre sur Assassin's Creed. Alors, tiens, très bien, Romain, il est sorti dans le 8 septembre, c'est le livre dont vous êtes l'assassin.
Ah, d'accord. Ouais. Donc, cette fois, on peut incarner l'assassin.
Voilà, l'assassin.
Ouais, il y a eu des romans chez Bragelonne, qui n'étaient pas trop mal d'ailleurs. Mais,
à 404 éditions, on a une nouvelle série d'Assassin's Creed, Fragments.
Ok.
Voilà, bon. Un peu le topo.
Et alors, du coup, on va écouter le morceau que tu nous avais choisi, ou on va peut-être attendre la fin de l'émission plutôt.
Ouais, c'est un morceau un peu japonisant, donc en lien avec l'Asie, quoi.
Tout à fait. Donc, on récapitule l'Angers Geek Fest.
Alors, vous pouvez nous trouver sur les horaires d'ouverture de 10h à 18h.
10h, 19h samedi, 10h, 18h dimanche.
Ouais. Très bien. Donc, nous aurons un énorme stand. Si jamais vous cherchez, vous regardez un gros imaginaire, on sera en dessous.
Alors, il sera facile à trouver, ce qui sera juste à côté de l'estrade, enfin, le gros stand de dédicace du festival.
Alors, par contre,
sera à l'entrée du pôle littérature, un peu sur la gauche.
Vous ne pressez pas tout, pas trop non plus, parce que, on a des auteurs et des dessinateurs, ils ne sont pas forcément connus pour être ponctuels. Du coup, 11h quand même.
C'est un procès d'intention, ça. On sera peut-être là avant lui.
Donc, vous pourrez venir nous y retrouver pour des séances de dédicaces et de discussions intenses avec les auteurs, s'ils ne sont pas devant le bar. Deuxième.
Ça s'annonce bien. Il va y avoir une bonne ambiance, en tout cas, venez.
Et effectivement, on vendra notre anthologie Orient Extrême, recueil de 16 nouvelles. Autour,
on ne vous a pas dit, vous êtes à la diète, c'est café pendant tous les deux jours.
Tant pis.
Des notes fantastiques, voilà. C'est là. On avait bien élargi. Et puis voilà, donc 8 auteurs en dédicace sur le stand.
Mis à part l'événement le plus important d'Angers Geek Fest, qui est la table ronde d'Imaginaire, il y a une foule de choses à aller voir, à aller découvrir. Vous en retrouverez tout sur le site angersgeekfest.fr. Sur rubrique avec les auteurs de littérature, les exposants, etc. Oui, parce qu'en littérature, il n'y a pas que nous, il y a quand même pas mal de personnes. Les éditions Sud-Arène seront présentes, les éditions Inceptio seront présentes, pas mal d'auteurs, des auteurs indépendants du Grand Ouest.
L'Asie. Honneur Roi, non, c'est ça comment on dit Les éditions Honoroi.
Les éditions Honoroi qui nous viennent de Rennes et qui sont spécialisées dans le steampunk seront là aussi.
Et Banquise et Comet aussi de Saumur.
Sera présent pour des choses introuvables nulle part ailleurs.
Et d'ailleurs, ils viennent de rééditer, puisqu'on parle des mythes japonais, ils viennent de rééditer Kwaidan de Lafcadio Hearn, qui était donc un recueil de textes qu'on consacrait plutôt au yokai, mais surtout aux fantômes japonais, que donc ce diplomate anglais avait écrit, un peu récupéré des vieux textes et aussi un petit peu de légendes par oral qu'il avait couché sur papier donc au début du 20e siècle. Et y a un film assez célèbre dans les années 60, enfin moi que j'ai adoré, mais qui est assez flippant, Kwaidan, hein, si vous ne l'avez pas vu. Non, c'est un film à sketch avec 3-4 histoires de fantômes et qu'on retrouve aussi... Donc si vous êtes fan de mythologie japonaise aussi, voilà, je pense que j'en reparlerai dans une de nos prochaines émissions. Et donc on se quitte.
Alors il faut quand même tout de même préciser, je suis désolé, l'Anja Geekfest, passe sanitaire, demandé et masque obligatoire. Mm. Ça fait partie du protocole sanitaire malheureusement, vous ne pourrez pas y échapper.
Donc merci Boris et Tony, on n'a pas le temps de faire votre portrait chinois. On vous recevra quand le tome 2 sera dans nos mains. De Paria, et puis donc on termine avec le choix Amy, c'est ça mais...
Oui, une artiste japonaise que j'ai découvert là, en écoutant, comme j'aime beaucoup écouter Deezer, je farfouille un petit peu, et puis
très bien.
Ça m'a bien plu.
J'allais vous dire, restez sur le 101.5 pour les voix du Scénarium, la première émission, mais en fait ça commence la semaine prochaine, donc c'est une des 10 nouvelles émissions qui arrivent sur Radio G, et celle-là est consacrée aux jeux de rôle. Donc, et elle est... C'est l'émission de Seb, de la case de Seb, hein, qui continue aussi le lundi soir à nous parler de BD.
Il est partout, celui-ci.
Ouais. Et on retrouvera aussi probablement des gens d'imaginaire en chronique dans cette émission. Mmh. Peut-être moi aussi. Mmh. Voilà. Bon, allez, on se quitte. À dans 2 semaines ou le week-end prochain au Parc Expo. Mmh.